Bienvenue dans la série spéciale « Développeurs en 2039 ». Mon but est de te faire réfléchir à notre monde d'aujourd'hui en se projetant dans l'avenir. Cette série comporte 20 épisodes que je t'invite à suivre dans l'ordre. Prêt ? C'est parti ! Dans l'épisode d'hier, j'ai échangé avec Gilles Navarre sur les raisons qui l'ont poussé à vivre en Thaïlande. Il ne t'aura pas échappé que Gilles travaille à distance 100% de son temps. Du coup, j'avais envie de voir comment ce mode de travail pouvait passer à l'échelle. Chez Agilidé, ma micro-boîte de service, on est à 3 et on est passé à 100% en télétravail. On se retrouve de temps en temps et même ceux qui étaient les plus réfractaires au début en sont maintenant les plus grands défenseurs. Oui, je parle de toi là, Benoît. Non, pas moi, l'autre Benoît. Et non, je ne suis pas fou, il y a deux Benoît chez Agilidé. Bref, chez nous, ça marche bien, très bien même. Mais commencer à 50 en France de surcroît. C'est cette question que j'avais envie de poser à Maxime de chez O'Clock. Chez O'Clock, ils ont un double truc cool. C'est une école 100% à distance qui elle-même bosse 100% à distance. Et je trouve ça juste super congruent. Comment on passe d'une poignée à 50 collaborateurs à distance? Quels sont les avantages ou les inconvénients? Quels sont les risques en France avec une législation sur le travail aussi réglementée? On en parle tout de suite dans l'épisode du jour. Bienvenue dans le 18e épisode de la série « Développeurs en 2039 ». Aujourd'hui, je suis avec Maxime Vaz, cofondateur de O'Clock. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Comme c'est la première fois que tu passes sur le podcast, est-ce que tu peux te présenter en une minute?
Alors Maxime, moi ça fait bientôt 17 ans que j'ai écrit ma première ligne de code. Ça ne m'a jamais vraiment quitté depuis. Je suis passé par du dev tout seul en freelance. J'ai monté une agence web, j'ai tenté aussi l'aventure startup. Et aujourd'hui, je suis cofondateur de l'école O'Clock. Parce que dans toutes mes précédentes aventures, il y a toujours eu quelque chose qui revenait, c'était la pénurie de développeurs. Donc du coup, bon, on avait envie d'essayer d'y répondre avec une solution à la fois accessible et aussi efficace, accessible parce qu'en ligne et aussi efficace parce que centrée sur les échanges humains.
Et dans le cadre de la perspective de se projeter en 2039, où on réfléchit à quoi pourrait ressembler le monde du travail dans 20 ans, ce que j'ai trouvé intéressant chez O'Clock, c'est que vous êtes en full remote, donc totalement à distance, en télétravail. J'étais curieux que tu partages ton expérience sur ça. Est-ce que tu penses que ça va être un modèle qui va se répandre? Est-ce que tu penses que tout le monde va y passer? Quels sont les avantages que vous en tirez? Et puis, quelles sont les difficultés? Puisque je crois que vous arrivez bientôt à 50, donc ça doit être intéressant comme retour d'expérience, je trouve.
Effectivement, on va dépasser prochainement les 50 personnes dans l'équipe. Et on serait l'entreprise en France la plus grande qui soit totalement en full remote. Donc forcément, je te cache pas qu'on navigue parfois nous-mêmes en territoire inconnu, mais on apprend beaucoup. On apprend à s'organiser ce faisant et petit à petit, voilà, nos process internes évoluent continuellement. Mais on se rend compte qu'il y a énormément de bienfaits au télétravail.
Si tu devais en citer qu'un seul, ça serait quoi pour toi le bienfait le plus important chez O'Clock?
Je pense que c'est le bien-être, vraiment. C'est là où je me dis qu'on aurait du mal à imaginer revenir à une entreprise physique. C'est qu'on a un bien-être lié tout simplement à la gestion de la vie pro et de la vie perso. Bah, on n'a pas de transport le matin. Quand j'étais à Paris, j'ai connu le moment où je passais une heure dans le métro le matin, une heure dans le métro le soir. On n'a pas le collègue enrhumé, on n'a pas la fatigue, on n'a pas l'open space bruyant, on n'a pas les réunions à rallonge, etc. On a encore tous les échanges humains, on a même une machine à café, sauf que nous c'est un channel Slack, notre machine à café, et donc du coup on a l'impression d'avoir supprimé tous les inconvénients et on a gardé les avantages et les côtés sympas du travail. Et j'ai vraiment l'impression que par rapport à avant, toute l'équipe, à chaque fois qu'ils décrivent un peu leur expérience chez O'Clock, c'est le bien-être au travail, tout simplement.
Et c'est quoi le challenge du moment? Comment est-ce que tu passes de 1, j'imagine? C'était quoi les paliers entre maintenant et entre... Vous êtes à 4, vous démarrez, et puis maintenant vous êtes 50. C'est quoi les différents paliers que tu as pu constater dans la progression sur ce point?
Il y a eu plusieurs paliers très, très difficiles à passer parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Au début, en fait, on était juste 4. On a créé un Slack. On s'est dit, tiens, on va se créer un espace de discussion ensemble pour avancer sur les projets, pour commencer à discuter régulièrement et finalement avoir une vie d'entreprise comme tout le monde, où chaque matin on se rejoint et chaque soir on se dit au revoir. Et puis finalement, on a commencé à recruter, on a recruté notamment des formateurs pour faire un peu plus de formation, puis on a recruté un petit peu sur tous les sujets, que ce soit de l'administratif, des RH, de la communication, etc. Et là où ça commence à être difficile, c'est que forcément, au départ, on est quatre. Bon, on s'organise un peu à l'arrache, il n'y a pas forcément besoin d'une organisation énorme. On avait juste un channel général, un channel random, et puis c'est tout. Et quand il commence à avoir plusieurs pôles qui se créent, un pôle vraiment communication, où il y a une équipe dans l'équipe, un pôle RH, un pôle pédagogique, un pôle admission, un pôle qualité, un pôle technique, un pôle finance, un pôle partenariat, il commence vraiment à avoir beaucoup d'échanges à gérer. Et là, c'est vraiment très difficile parce que on essaye de se renseigner sur quelles sont les bonnes pratiques. Et il n'y en a pas vraiment des bonnes pratiques parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'entreprises qui ont été dans cette situation. Du coup, on a dû essayer de trouver des solutions un peu au fil de l'eau. Finalement, aujourd'hui, on a une organisation qui nous plaît beaucoup. Mais c'était pas, oui, c'est sûr que c'était pas évident. C'est vraiment ce passage, on est passé d'une seule équipe, entre guillemets, à plusieurs équipes parce qu'il y a eu plusieurs pôles. C'était vraiment parfois un peu difficile de savoir si on allait dans le bon chemin, quoi.
Donc le premier niveau, c'était le passage, si je comprends bien, à différents pôles où en fait les échanges au sein de chaque métier a commencé à s'intensifier. Aujourd'hui, à 5 ans, tu dirais que c'est quoi le challenge numéro 1 d'aujourd'hui ?
Le challenge numéro 1, je pense que c'est garder en fait un esprit d'équipe tous ensemble, alors même que à 50 personnes, il y a des personnes dans l'équipe auxquelles on ne parle pas, on n'échange pas au quotidien. Et ça, c'est très difficile. C'est pour des gens qui sont dans l'opérationnel, qui viennent d'arriver, pour eux, quelque part, c'est normal. Il y a 50 personnes, évidemment, que je ne vais pas connaître tout le monde. Pour moi, qui suis cofondateur, c'est parfois difficile de me dire, tiens, la personne qui vient de nous rejoindre la semaine dernière, finalement, je ne la connais pas beaucoup, j'échange pas beaucoup avec elle. Et il faut accepter ça. Il faut accepter que forcément, à 50, je ne vais pas pouvoir connaître la vie personnel et détails personnels de tout le monde. Je ne peux pas discuter avec tout le monde comme dans une entreprise physique finalement. Mais avec le télétravail, on a l'impression qu'on est à la portée de un clic, on peut discuter avec tout le monde. Alors que dans une entreprise physique, finalement, parfois, différents pôles d'une entreprise ont peut-être différents bâtiments ou différentes salles ou différents étages. Donc du coup, c'est plus facile à accepter le fait que je ne vais pas connaître bien la compta, je ne vais pas connaître bien les développeurs parce que je ne suis pas dans cette équipe-là, donc je ne les connais pas. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais on essaye d'y répondre avec une organisation qui est assez pointue, où on se dit que on cloisonne bien les discussions, comme ça on n'a pas la frustration de ne pas avoir le retour de certaines personnes. Mais surtout, il y a une chose auquel on tient beaucoup, c'est que de temps en temps, on essaye de se regrouper physiquement le temps d'un week-end. Et donc là, il y a les 50 personnes qui se rejoignent. On va faire un prochain week-end après les grandes vacances, en octobre par exemple. Et ça permet un peu de répondre à ce côté, on ne peut pas parler à tout le monde, mais finalement on crée un événement où on se rappelle qu'on est un peu une famille, même si c'est un terme un peu galvaudé, on reste des collègues, c'est pas comme une famille, mais il y a un lien spécial qu'on a envie de garder, et on essaye de tout faire pour le garder, ce lien un peu qui, je pense, contribue un peu à ce côté bien-être que tout le monde peut ressentir un peu dans l'équipe.
C'est cool ça. Et si je me projette en 2039, est-ce que tu penses que le télétravail sera devenu une norme, sera devenu quelque chose de facile? Parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est quand même encore plus l'exception qu'autre chose. Est-ce que tu penses que d'ici 20 ans, ça se sera généralisé?
Alors déjà, qui dit télétravail, dit pas forcément en fait travailler de chez soi. On peut très bien imaginer travailler d'un tiers lieu. Les coworking, on la cote en ce moment. Ça peut être une bonne solution, je pense, si on veut maintenir du lien social. Même si, pour ma part, j'ai pas l'impression que ce soit une problématique. On peut socialiser en dehors de son travail, les activités sportives, associatives, culturelles. Mais en tout cas, c'est souvent ce côté-là qui revient. Quand je parle du télétravail, les gens ils me disent « oui, mais on n'a plus de lien social ». Donc du coup, je pense que finalement, le fait de travailler à distance, ça va peut-être plus venir par des coworking et ce genre de choses que par le télétravail pur, entre guillemets, où on travaille de chez soi. Mmh. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a même le gouvernement qui est en train de s'y pencher. Alors, au moment où les politiques se penchent sur quelque chose, ça veut dire en général que dans la société, c'est déjà là depuis longtemps. Les coworking, je pense que ça va être un peu l'avenir du travail. Je ne pense pas que le télétravail soit majoritaire un jour. Par contre, si le coworking est majoritaire un jour, ça ne m'étonnerait pas.
quelle différence tu fais entre du coworking et du télétravail? Pour moi, c'est du travail à distance. Que tu sois de chez toi ou dans un bureau type coworking, c'est du télétravail dans les deux cas.
C'est ça, c'est du télétravail. Mais justement, c'est vrai que quand on parle de télétravail, les gens s'imaginent la personne toute seule chez elle. Alors qu'en fait, on peut très bien télétravailler à coworking. Non,
ne pas confondre télétravail et home office, quoi.
Et j'ai l'impression que la barrière psychologique, elle est plus là-dessus finalement. Elle est plus sur l'isolation sociale que vraiment sur le fait du coup d'avoir une organisation distribuée.
J'ai un avis beaucoup plus sombre que ce que tu dis. Moi, je pense que si les entreprises ne le diffusent pas, c'est tout simplement un problème de confiance qui est le reflet d'un manque de maîtrise de ce que font les gens, en fait. Très souvent, moi, dans les boîtes quand je les taquine, dans les boîtes où j'interviens, alors forcément, j'interviens en conseil. Donc déjà, il y a peut-être un biais. Mais dans ces boîtes-là, très souvent, l'argument, c'est « Ah non, mais on ne va pas laisser les gens travailler chez eux. Et comment on va faire pour vérifier s'ils bossent ?» Et là, je me dis « Putain, si tu as besoin qu'ils soient sous toi, à 2 mètres de toi pour vérifier qu'ils bossent, ça m'inquiète parce que ça fait bien longtemps que être devant l'ordinateur n'est plus un critère de travail, non, il me semble ?»
Je comprends ce réflexe du manager de se dire j'ai besoin d'avoir la personne sous les yeux pour voir s'il travaille. C'est un réflexe, je pense, naturel, tout simplement, parce que c'est le côté on a toujours fait comme ça, et c'est parfois difficile de changer de modèle mental et de se dire finalement, qu'il soit à distance ou devant moi, est-ce que j'ai la certitude qu'il travaille ? Vraiment, quelqu'un qui est développeur en open space, il peut passer sa journée à jouer à un jeu vidéo et hop, il met l'éditeur de code quand il y a son manager qui passe derrière. Finalement, on ne verrait pas vraiment la différence. Donc, je suis convaincu comme toi qu'il n'y a pas vraiment de différence. Et nous, on le voit d'ailleurs chez O'Clock. Hein. Chez O'Clock, on fait confiance par défaut. On a des systèmes pour essayer de rentrer dans les cases légales. Par exemple, on essaye de mesurer nos temps de travail. On a une base légale quand même sur les 35 heures, etc. Mais finalement, c'est la confiance qui règne. Et si tu ne fais pas ton travail, on ne va pas aller vérifier que tu as fait ton travail. On ne va pas aller vérifier que tu as fait tes 7 heures dans la journée. On va juste voir, tiens, ça, ce n'est pas fait. Pourquoi ce n'est pas fait? Et en général, on le voit tout de suite, les gens qui travaillent. Il n'y a pas besoin d'être derrière, en fait. Parce que de toute façon, il y a les projets qui avancent. Donc, et si les projets n'avancent pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne travaille pas ou alors qu'il y a un obstacle à surmonter. Et ça, c'est vrai que je pense que ça peut changer. Avec la nouvelle génération qui arrive, j'ai l'impression que finalement, ce changement de modèle, il a déjà eu lieu pour les générations à venir, celles qui sont nées avec Internet, celles qui sont habituées à discuter par SMS, par WhatsApp, etc. Demain, quand ces personnes-là sont en entreprise ou deviendront managers, j'ai pas l'impression qu'ils auront beaucoup de mal finalement à faire confiance à quelqu'un qui sera en télétravail. Donc c'est pour ça que en 2039, je me dis, ce problème-là, peut-être qu'on l'aura plus finalement.
Eh ben écoute, je te remercie. Je te propose que ce soit le mot de la fin. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur O'Clock, ils peuvent venir où?
Alors ils peuvent aller sur O'Clock.io. On décrit surtout l'école. On aimerait développer dans notre blog beaucoup de choses qui touchent justement au télétravail et pourquoi pas pour aider d'autres entreprises à se lancer en full remote. C'est dans les cartons en tout cas.
Merci Maxime d'être venu.
Merci.
Voilà qui me conforte encore plus dans l'idée que le travail à distance est une clé de l'avenir. Dans un monde de plus en plus imprévisible et chaotique, la souplesse du remote permet de garder une forte cohérence d'entreprise. Paradoxal, non ? Bon, ce qui est sûr, c'est que ça résiste mal à une panne d'électricité tout ça. Et comme dirait mon père, en même temps, si on n'a plus de courant, on aura d'autres problèmes plus urgents à régler. Ce que j'aime aussi avec le remote, c'est qu'il fait mettre un pied dans le virtuel. Quel rôle jouera le virtuel dans l'avenir? Pour échanger sur cette question, je suis allé discuter avec quelqu'un qui baigne tous les jours dans la virtualisation de serveurs. Tu sais, ces machines qui font tourner le monde numérique. On parlera demain avec Victor Mignot des enjeux de la virtualisation et comment il voit les choses évoluer. Comment voit-il cette discipline se changer? Quel parallèle peut-on faire avec d'autres domaines, d'autres disciplines? On parlera de tout ça dans l'épisode de demain. D'ici là, je t'invite à partager cette série comme bon te plaira. Je compte sur toi pour m'aider à diffuser cette émission, si bien sûr tu l'apprécies. Et maintenant, place à la fiction développeur en 2039. Je te dis à demain.
Bienvenue à tous, messieurs, mesdames. Cette nuit, nous passons à l'action. C'est peut-être peu de choses à l'échelle du monde, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ce soir, nous nous battons pour nos vies et celles de nos enfants, pour notre terre et nos familles. En mettant hors d'usage cette usine, nous protégerons l'air que nous respirons pour longtemps. Atlantis ne sait plus recréer cette usine. Ils ont encore les plans, mais ne sont plus capables de fabriquer les composants et encore moins le cœur du générateur. En le détruisant, nous arrêtons définitivement la géoprotection. La première unité embarque Michael et Benjamin. Leur rôle est de mettre hors service le système de sécurité. Atlantis sera aveugle, sourde et muette. Nous aurons alors un laps de temps court. Quelques dizaines de minutes tout au plus pour entrer dans l'usine, placer les charges et évacuer avant qu'elle n'explose. C'est la Fouine qui mènera le groupe de mineurs. Nous aurons des hommes postés un peu partout pour freiner la police et aider à l'extraction. La sécurité de l'usine sera allégée grâce à notre infiltré. Mais les services de police seront sur les dents et ils ne feront pas de cadeaux. Pour nous extraire, nous fuirons à travers les quartiers éteints. Cela les dissuadera de nous suivre. Rendez-vous dans une heure pour partir. Allez dire au revoir à vos familles.